Sagnette, qui, depuis qu'il avait rendu précipitamment au maître d'hôtel son assiette encore pleine, s'était replongé dans un silence méditatif, en sortit enfin pour raconter en riant l'histoire d'un dîner qu'il avait fait avec le duc de la Trémoille, et d'où il résultait que celui-ci ne savait pas que George Sand était le pseudonyme d'une femme. Swann, qui avait de la sympathie pour sa nièce, crut devoir lui donner sur la culture du duc des détails montrant qu'une telle ignorance de la part de celui-ci était matériellement impossible. Mais tout d'un coup il s'arrêta. Il venait de comprendre que sa nièce n'avait pas besoin de ses preuves et savait que l'histoire était fausse pour la raison qu'il venait de l'inventer il y avait un moment. Cet excellent homme souffrait d'être trouvé si ennuyeux par les vers du Rhin, et, ayant conscience d'avoir été plus terne encore à ce dîner que d'habitude, il n'avait voulu le laisser finir sans avoir réussi à amuser. Il capitula si vite, eut l'air si malheureux de voir manquer l'effet sur lequel il avait compté, et répondit d'un ton si lâche à Swann pour que celui-ci ne s'acharnât pas à une réfutation désormais inutile. « c'est bon, en tout cas, même si je me trompe, ce n'est pas un crime, je pense. » Que Swann aurait voulu pouvoir dire que l'histoire était vraie et délicieuse. Le docteur, qui les avait écoutés, eut l'idée que c'était le cas de dire « c'est non è vero », mais il n'était pas assez sûr des mots et craignit de s'embrouiller. Après le dîner, Forcheville alla de lui-même vers le docteur. « Elle n'a pas dû être mal, Madame Verdurin. Et puis, c'est une femme avec qui on peut causer. Pour moi, tout est là. Évidemment, elle commence à avoir un peu de bouteille. Mais Madame de Crécy, voilà une petite femme qui a l'air intelligente. » Ah, sa perlipopette, on voit tout de suite qu'elle a l'œil américain, celle-là. Nous parlons de Madame de Crécy, dit-il à M. Verdurin qui s'approchait, la pipe à la bouche. Je me figure que, comme corps de femme, j'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre, dit précipitamment Cottard qui, depuis quelques instants, attendait en vain que Forcheville reprît haleine, pour placer cette vieille plaisanterie dont il craignait que ne revînt pas la propos si la conversation changeait de cours, et qu'il débita avec cet excès de spontanéité et d'assurance qui cherche à masquer la froideur et l'émoi inséparables d'une récitation. Forcheville la connaissait, il la comprit et s'en amusa. Quant à M. Verdurin, il ne marchanda pas sa gaieté, car il avait trouvé depuis peu, pour la signifier, un symbole autre que celui dont usait sa femme, mais aussi simple et aussi clair. À peine avait-il commencé à faire le mouvement de tête et d'épaule de quelqu'un qui s'esclaffe, qu'aussitôt il se mettait à tousser comme si, en riant trop fort, il avait avalé la fumée de sa pipe. Et la gardant toujours au coin de sa bouche, il prolongeait indéfiniment le simulacre de suffocation et d'hilarité. Ainsi, lui et Madame Verdurin, qui, en face, écoutant le peintre qui lui racontait une histoire, fermait les yeux avant de précipiter son visage dans ses mains, avaient l'air de deux masques de théâtre qui figuraient différemment la gaieté. Monsieur Verdurin avait d'ailleurs fait sagement en ne retirant pas sa pipe de sa bouche, car Cottard, qui avait besoin de s'éloigner un instant, fit à mi-voix une plaisanterie qu'il avait apprise depuis peu et qu'il renouvelait chaque fois qu'il avait à aller au même endroit. « Il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale. » De sorte que la quinte de M. Verdurin recommença. « Voyons, enlève donc ta pipe de ta bouche. Tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça. » lui dit Madame Verdurin qui venait offrir des liqueurs. « Quel homme charmant que votre mari! Il a de l'esprit comme quatre !» déclara Forcheville à Madame Cottard. « Merci, madame. Un vieux troupier comme moi, ça ne refuse jamais la goutte. » « Monsieur de Forcheville trouve Odette charmante, » dit Monsieur Verdurin à sa femme. Mais justement, elle voudrait déjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner ça. Mais il ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, il met un peu de froid. Ça ne vous empêchera pas de venir dîner, naturellement. Nous espérons vous avoir très souvent. Avec la belle saison qui vient, nous allons souvent dîner en plein air. Cela ne vous ennuie pas, les petits dîners au bois? Bien, bien, ce sera très gentil. Est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier, vous? Cria-t-elle au petit pianiste, afin de faire montre, devant un nouveau de l'importance de Forcheville, à la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidèles.
Monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi,
dit madame Cottard à son mari quand il rentra au salon. Et lui, poursuivant l'idée de la noblesse de Forcheville qui l'occupait depuis le commencement du dîner, lui dit « Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Putbus. Les Putbus étaient aux croisades, n'est-ce pas? Ils ont en Poméranie un lac qui est grand comme 10 fois la place de la Concorde. Je la soigne pour de l'arthrite sèche. C'est une femme charmante. Elle connaît du reste madame Verdurin, je crois. » Ce qui permit à Forcheville, quand il se retrouva un moment après seul avec madame Cottard, de compléter le jugement favorable qu'il avait porté sur son mari. « Et puis il est intéressant. On voit qu'il connaît du monde. Dame, ça sait tant de choses, les médecins. » « Je vais jouer la phrase de la sonate pour Monsieur Swann, » dit le pianiste. « Ah, bigre, ce n'est pas au moins le serpent à sonate ?» demanda Monsieur de Forcheville pour faire de l'effet. Mais le docteur Cottard, qui n'avait jamais entendu ce calembour, ne le comprit pas et crut à une erreur de Monsieur de Forcheville. Il s'approcha vivement pour la rectifier. « Mais non, ce n'est pas serpent à sonnette qu'on dit, c'est serpent à sonnette » dit-il d'un ton zélé, impatient et triomphal. Forcheville lui expliqua le calembour. Le docteur rougit. « Avouez qu'il est drôle, docteur. »« Oh, je le connais depuis si longtemps !» répondit Cottard. Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon qui la protégeaient de leur tenue frémissante à 2 octaves de là, et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit, 200 pieds plus bas, la forme minuscule d'une promeneuse, la petite phrase venait d'apparaître, lointaine, gracieuse. Protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour, comme à une amie d'Odette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville. « Ah, vous arrivez tard !» dit madame Verdurin à un fidèle qu'elle n'avait invité qu'en cure-dents. « Nous avons eu un brichot incomparable, d'une éloquence. Mais il est parti. N'est-ce pas, monsieur Swann? Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontriez avec lui, » dit-elle, pour lui faire remarquer que c'était à elle qu'il devait de le connaître. « N'est-ce pas? Il a été délicieux, notre brichot. » Swann s'inclina poliment. « Non, il ne vous a pas intéressé, » lui demanda sèchement madame Verdurin. « Mais si, madame, beaucoup. J'ai été ravie. Il est peut-être un peu péremptoire et un peu jovial pour mon goût. Je lui voudrais parfois un peu d'hésitation et de douceur. Mais on sent qu'il sait tant de choses et il a l'air d'un bien brave homme. » Tout le monde se retira fort tard. Les premiers mots de Cottard à sa femme furent « « J'ai rarement vu madame Verdurin aussi en verve que ce soir. »« Qu'est-ce que c'est exactement que cette madame Verdurin? Un demi-castor ?» dit Forcheville au peintre à qui il proposa de revenir avec lui. Odette le vit s'éloigner avec regret. Elle n'osa pas ne pas revenir avec Swann, mais fut de mauvaise humeur en voiture, et quand il lui demanda s'il devait entrer chez elle, elle lui dit « Bien entendu, en haussant les épaules avec impatience. Quand tous les invités furent partis, Madame Verdurin dit à son mari « As-tu remarqué comme Swann a ri d'un rire niais quand nous avons parlé de Madame la Trémoille ?» Elle avait remarqué que devant ce nom, Swann et Forcheville avaient plusieurs fois supprimé la particule. Ne doutant pas que ce fût pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés par les titres, elle souhaitait d'imiter leur fierté, mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. Aussi, sa vicieuse façon de parler l'emportant sur son intransigeance républicaine, elle disait encore les « de la Trémoille », ou plutôt, par une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et les légendes des caricaturistes, et qui dissimulait le « de », les « de la Trémoille ». Mais elle se rattrapait en disant « Madame la Trémoille ».« La duchesse, comme dit Swann », ajouta-t-elle ironiquement avec un sourire qui prouvait qu'elle ne faisait que citer et ne prenait pas à son compte une dénomination aussi naïve et ridicule. « Je te dirais que je l'ai trouvée extrêmement bête. » Et M. Verdurin lui répondit « Il n'est pas franc. C'est un monsieur côteleux, toujours entre le ziste et le zeste. Il veut toujours ménager la chèvre et le chou. Quelle différence avec Forcheville! Voilà au moins un homme qui vous dit carrément sa façon de penser. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas comme l'autre qui n'est jamais ni figue ni raisin. Du reste, Odette a l'air de préférer joliment le Forcheville. Et je lui donne raison. Et puis enfin, puisque Swann veut nous la faire à l'homme du monde, au champion des duchesses, au moins l'autre a son titre. Il est toujours comte de Forcheville, ajouta-t-il d'un air délicat, comme si, au courant de l'histoire de ce comté, il en soupesait minutieusement la valeur particulière. Je te dirai, dit Madame Verdurin, qu'il a cru devoir lancer contre Brichot quelques insinuations venimeuses et assez ridicules. Naturellement, comme il a vu que Brichot était aimé dans la maison, c'était une manière de nous atteindre, de bêcher notre dîner. On sent le bon petit camarade qui vous débinera en sortant. « Mais je te l'ai dit, répondit M. Verdurin, c'est le raté, le petit individu envieux de tout ce qui est un peu grand. » En réalité, il n'y avait pas un fidèle qui ne fût plus malveillant que Swann. Mais tous, ils avaient la précaution d'assaisonner leur médisance de plaisanterie connue, d'une petite pointe d'émotion et de cordialité, tandis que la moindre réserve que se permettait Swann, dépouillée des formules de convention telles que « ce n'est pas du mal que nous disons » et auxquelles il dédaignait de s'abaisser, paraissait une perfidie. Il y a des auteurs originaux dont la moindre hardiesse révolte parce qu'ils n'ont pas d'abord flatté les goûts du public et ne lui ont pas servi les lieux communs auxquels il est habitué. C'est de la même manière que Swann indignait M. Verdurin. Pour Swann comme pour eux, c'était la nouveauté de son langage qui faisait croire à la noirceur de ses intentions. Swann ignorait encore la disgrâce dont il était menacé chez les Verdurin et continuait à voir leur ridicule en beau au travers de son amour. Il n'avait de rendez-vous avec Odette, au moins le plus souvent, que le soir. Mais le jour, ayant peur de la fatiguer de lui en allant chez elle, il aurait aimé du moins ne pas cesser d'occuper sa pensée. Et à tout moment, il cherchait à trouver une occasion d'y intervenir, mais d'une façon agréable pour elle. Si, à la devanture d'un fleuriste ou d'un joaillier, la vue d'un arbuste ou d'un bijou le charmait, aussitôt il pensait à les envoyer à Odette, imaginant le plaisir qu'il lui avait procuré, ressenti par elle, venant accroître la tendresse qu'elle avait pour lui, et les faisait porter immédiatement rue de la Pérouse, pour ne pas retarder l'instant où, comme elle recevrait quelque chose de lui, il se sentirait en quelque sorte près d'elle. Il voulait surtout qu'elle les reçût avant de sortir, pour que la reconnaissance qu'elle éprouverait lui valût un accueil plus tendre quand elle le verrait chez les Verdurin. Ou même, qui sait, si le fournisseur faisait assez diligence, peut-être une lettre qu'elle lui enverrait avant le dîner, ou sa venue à elle en personne chez lui, en une visite supplémentaire, pour le remercier. Comme jadis, quand il expérimentait sur la nature d'Odette les réactions du dépit, il cherchait par celle de la gratitude à tirer d'elle des parcelles intimes de sentiments qu'elle ne lui avait pas révélés encore. Souvent, elle avait des embarras d'argent et, pressée par une dette, le priait de lui venir en aide. Il en était heureux comme de tout ce qui pouvait donner à Odette une grande idée de l'amour qu'il avait pour elle, ou simplement une grande idée de son influence, de l'utilité dont il pouvait lui être. Sans doute, si on lui avait dit au début « c'est ta situation qui lui plaît » et maintenant « c'est pour ta fortune qu'elle t'aime », il ne l'aurait pas cru et n'aurait pas été d'ailleurs très mécontent qu'on se la figurât tenant à lui, qu'on les sentît unis l'un à l'autre par quelque chose d'aussi fort que le snobisme ou l'argent. Mais même s'il avait pensé que c'était vrai, peut-être n'eût-il pas souffert de découvrir à l'amour d'Odette pour lui cet état plus durable que l'agrément ou les qualités qu'elle pouvait lui trouver. L'intérêt qui empêcherait de venir jamais le jour où elle aurait pu être tentée de cesser de le voir. Pour l'instant, en la comblant de présents, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extérieurs à sa personne, à son intelligence, du soin épuisant de lui plaire par lui-même. Et cette volupté d'être amoureux, de ne vivre que d'amour, de la réalité de laquelle il doutait parfois, le prix dont en somme il la payait, en dilettante de sensations immatérielles, lui en augmentait la valeur, comme on voit des gens incertains si le spectacle de la mer et le bruit de ses vagues sont délicieux, sans convaincre ainsi que de la rare qualité de leur goût désintéressé, en louant 100 francs par jour la chambre d'hôtel qui leur permet de les goûter. Un jour que des réflexions de ce genre leur ramenaient encore au souvenir du temps où on lui avait parlé d'Odette comme d'une femme entretenue, et où, une fois de plus, il s'amusait à opposer cette personnification étrange, la femme entretenue, chatoyant amalgame d'éléments inconnus et diaboliques, sertie, comme une apparition de Gustave Moreau, de fleurs vénéneuses entrelacées à des joyaux précieux, et cette Odette sur le visage de qui il avait vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait, qu'il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis, cette Odette dont les propos avaient si souvent trait aux choses qu'il connaissait le mieux lui-même, à ses collections, à sa chambre, à son vieux domestique, au banquier chez qui il avait ses titres. Il se trouva que cette dernière image du banquier lui rappela qu'il aurait à y prendre de l'argent. En effet, si ce mois-ci il venait moins largement à l'aide d'Odette dans ses difficultés matérielles qu'il n'avait fait le mois dernier où il lui avait donné 5 000 francs, et s'il ne lui offrait pas une rivière de diamants qu'elle désirait, il ne renouvellerait pas en elle cette admiration qu'elle avait pour sa générosité, cette reconnaissance qui le rendait si heureux, et même il risquerait de lui faire croire que son amour pour elle, comme elle en verrait les manifestations devenir moins grandes, avait diminué. Alors, tout d'un coup, il se demanda si cela, ce n'était pas précisément l'entretenir, comme si, en effet, cette notion d'entretenir pouvait être extraite d'éléments non pas mystérieux ni pervers, mais appartenant au fond quotidien et privé de sa vie, tel que ce billet de 1 000 francs, domestique et familier, déchiré et recollé, que son valet de chambre, après lui avoir payé les comptes du mois et le terme, avait serré dans le tiroir du vieux bureau où Swann l'avait repris, pour l'envoyer avec 4 autres à Odette. Et si on ne pouvait pas appliquer à Odette, depuis qu'il la connaissait, car il ne soupçonna pas un instant qu'elle eût jamais pu recevoir d'argent de personne avant lui. Ce mot qu'il avait cru si inconciliable avec elle, de femme entretenue. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence. Aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa la main sur les yeux et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs à Odette au lieu de 5, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait. Le soir, quand il ne restait pas chez lui à attendre l'heure de retrouver Odette chez les Verdurin, ou plutôt dans un des restaurants d'été qu'ils affectionnaient au bois et surtout à Saint-Cloud, il allait dîner dans quelqu'une de ces maisons élégantes dont il était jadis le convive habituel. Il ne voulait pas perdre contact avec des gens qui, savait-on, pourraient peut-être un jour être utiles à Odette, et grâce auxquels, en attendant, il réussissait souvent à lui être agréable. Puis l'habitude qu'il avait eue longtemps du monde, du luxe, lui en avait donné, en même temps que le dédain, le besoin, de sorte qu'à partir du moment où les réduits les plus modestes lui étaient apparus exactement sur le même pied que les plus princières demeures, ses sens étaient tellement accoutumés aux secondes qu'il eût éprouvé quelque malaise à se trouver dans les premiers. Il avait la même considération, à un degré d'identité qu'il n'aurait pu croire, pour des petits bourgeois qui faisaient danser au 5e étage d'un escalier D, palier à gauche, que pour la princesse de Parme qui donnait les plus belles fêtes de Paris. Mais il n'avait pas la sensation d'être au bal, en se tenant avec les pères dans la chambre à coucher de la maîtresse de maison, et la vue des lavabos recouverts de serviettes, des lits transformés en vestiaires, sur le couvre-pied desquels s'entassaient les pardessus et les chapeaux, lui donnaient la même sensation d'étouffement que peut causer aujourd'hui à des gens habitués à 20 ans d'électricité l'odeur d'une lampe qui charbonne ou d'une veilleuse qui file. Le jour où il dînait en ville, il faisait atteler pour 7h30. Il s'habillait tout en songeant à Odette, et ainsi il ne se trouvait pas seul, car la pensée constante d'Odette donnait au moment où il était loin d'elle le même charme particulier qu'à ceux où elle était là. Il montait en voiture, mais il sentait que cette pensée y avait sauté en même temps et s'installait sur ses genoux comme une bête aimée qu'on emmène partout et qu'il garderait avec lui à table à l'insu des convives. Il la caressait, se réchauffait à elle, et, éprouvant une sorte de langueur, se laissait aller à un léger frémissement qui crispait son cou et son nez, et était nouveau chez lui, tout en fixant à sa boutonnière le bouquet d'encolis. Se sentant souffrant et triste depuis quelque temps, surtout depuis qu'Odette avait présenté Forcheville au Verdurin, Swann aurait aimé aller se reposer un peu à la campagne. Mais il n'aurait pas eu le courage de quitter Paris un seul jour pendant qu'Odette y était. L'air était chaud. C'étaient les plus beaux jours du printemps. Et il avait beau traverser une ville de pierre pour se rendre en quelque hôtel clos, ce qui était sans cesse devant ses yeux, c'était un parc qu'il possédait près de Combray, où, dès 4 heures, avant d'arriver au plan d'asperges, grâce au vent qui vient des champs de Méséglise, on pouvait goûter sous une charmille autant de fraîcheur qu'au bord de l'étang cerné de myosotis et de glaïeuls, et où, quand il dînait, enlacé par son jardinier, couraient autour de la table les groseilles et les roses. après dîner, si le rendez-vous au bois ou à Saint-Cloud était de bonne heure, il partait si vite en sortant de table, surtout si la pluie menaçait de tomber et de faire rentrer plutôt les fidèles, qu'une fois la princesse des Laumes, chez qui on avait dîné tard, et que Swann avait quitté avant qu'on servît le café pour rejoindre les Verdurins dans l'île du Bois, dit « Vraiment, si Swann avait 30 ans de plus et une maladie de la vessie, on l'excuserait de filer ainsi, mais tout de même, il se moque du monde. » Il se disait que le charme du printemps qu'il ne pouvait pas aller goûter à Combray, il le trouverait du moins dans l'île des Cygnes ou à Saint-Cloud. Mais comme il ne pouvait penser qu'à Odette, il ne savait même pas s'il avait senti l'odeur des feuilles, s'il y avait eu du clair de lune. Il était accueilli par la petite phrase de la sonate jouée dans le jardin sur le piano du restaurant.
S'il n'y en avait pas là,
les Verdurins prenaient une grande peine pour en faire descendre un d'une chambre ou d'une salle à manger.
Ce n'est pas que Swann fût rentré en faveur auprès d'eux, au contraire.
Mais l'idée d'organiser un plaisir ingénieux pour quelqu'un, même pour quelqu'un qu'il n'aimait pas, développait chez eux, pendant les moments nécessaires à ces préparatifs, des sentiments éphémères et occasionnels de sympathie et de cordialité. Parfois, il se disait que c'était un nouveau soir de printemps de pluie qui passait. Il se contraignait à faire attention aux arbres, au ciel. Mais l'agitation où le mettait la présence d'Odette, et aussi un léger malaise fébrile qui ne le quittait guère depuis quelque temps, le privait du calme et du bien-être qui sont le fond indispensable aux impressions que peut donner la nature. Un soir où Swann avait accepté de dîner avec les Verdurins, comme pendant le dîner il venait de dire que le lendemain il avait un banquet d'anciens camarades, Odette lui avait répondu en pleine table devant Forcheville qui était maintenant un des fidèles, devant le peintre, devant Cottard. « Oui, je sais que vous avez votre banquet, je ne vous verrai donc que chez moi, mais ne venez pas trop tard. »